Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Bruno Donnet pour ses télescopages et à suivre notre invité, c'est Isabelle Huppert. On parle du film Les Promesses. Quelle promesse ! Bonjour Stéphanie Loire.
Salut Philippe Vandel.
Bonjour Camille Jounot.
Bonjour Philippe.
Et je vous salue Bruno Donnet.
Bonjour
salut
Philippe.
Tous les jours Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques et ce week-end, vous avez été très intéressé par les déclarations d'un professeur de médecine. Il s'appelle Renaud Piaroux et il a livré une analyse, m'avez-vous dit, inattendue sur la manière dont les médias traitent en ce moment du Covid.
Oui, télescopage ce matin Philippe entre les propos d'un des plus brillants spécialistes des maladies infectieuses et ce que j'ai observé à la télé pas plus tard qu'hier soir. Renaud Piaroux est professeur de parasitologie à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il s'est rendu célèbre par ses travaux sur les épidémies de choléra et il s'intéresse donc désormais au virus du Covid. Ne défend pas de chapelle ou de théorie particulière et lorsqu'il est interrogé sur France Culture par exemple, il se présente comme ceci.
Moi je ne suis pas là pour affaiblir ou renforcer un discours, mais c'est de dire ce qu'il en est.
En d'autres termes, si j'ai remarqué ce professeur, Philippe, c'est parce qu'il m'a semblé qu'il s'intéressait principalement aux faits scientifiques, bien plus qu'aux commentaires, ce qui, en ce moment, vous en conviendrez, est une denrée suffisamment rare pour être signalée. Pour autant, on peut probablement classer Renaud Piaroux dans la catégorie des prudents. Et lorsque, toujours sur France Culture, on lui demandait tout récemment un pronostic sur l'issue de la pandémie de Covid, voici comment il répondait.
Il faut beaucoup de temps. Et sur une échelle de 2 ans, 3 ans, on ne peut vraiment pas dire « ça y est, on est arrivé au bout ».
Il faudra beaucoup de temps pour en sortir. Or, la question de la fin du Covid est aujourd'hui extrêmement présente dans les médias. Ainsi, avant-hier, des journalistes du site internet de France Info ont eu la riche idée d'interviewer Renaud Piaroux. Ils lui ont demandé son point de vue sur le terme possible de la pandémie, et voici ce que le professeur, qui fait aussi de l'analyse médiatique, leur a fait remarquer. À la fin du mois dernier, a-t-il indiqué, l'Institut Pasteur a publié plusieurs prévisions dont certaines étaient franchement catastrophiques. Parmi leurs 4 scénarios, un seul modèle pronostiquait qu'il ne se passerait peut-être pas grand-chose. Eh bien, c'est celui-ci, et uniquement celui-ci, qui a été relayé dans la presse. Et le professeur Piaroux de poursuivre en expliquant, le 7 janvier dernier, l'Institut Pasteur est même revenu sur ses calculs et le modèle optimiste a été totalement balayé. Mais malgré ça, la presse n'en a absolument pas fait mention. Bref, d'après cet infectiologue, nous en avons tous ras-le-bonnet du Covid et les médias aussi. Voilà pourquoi ils essaient par tous les moyens d'entrevoir la lumière au bout du tunnel. Très intéressant point de vue que j'ai pu vérifier très concrètement dans les faits. Mardi dernier, le journal Libération titrait sur « Covid, espoir à l'horizon ». Et hier soir, dans le 20h de France 2, figurez-vous qu'un reportage a posé cette question.
La vague Omicron pourrait-elle être la dernière ?
La parole a été donnée à l'un des dirigeants de l'Organisation mondiale de la santé qui a exprimé une analyse dans laquelle il faut bien écouter les mots et la précision.
Il est plausible que la région se dirige vers une sorte de fin de pandémie. Non pas une fin du Covid-19, mais une fin de pandémie.
Voilà, il est estimé que la fin de la pandémie était plausible, donc pas certaine. Il a dit « dans la région », ce qui signifie « uniquement en Europe », avant de préciser que ce serait de toute façon pas la fin du Covid tout court. Eh bien écoutez donc comment, sur France 2, on a résumé ses propos.
« La fin espérée d'une pandémie exceptionnelle, par sa durée et son ampleur. »
Voilà, c'est la fin qu'elle a dit la madame CQFD. Bien vu, professeur Piaroux, le scientifique qui a aussi expliqué que les oiseaux de mauvais augure n'étaient pas en odeur de sainteté dans les médias, avant d'affirmer que rien, absolument rien, ne permettait de pronostiquer la fin de la pandémie. Et oui, je suis navré de commencer la semaine sur cette note pessimiste, Philippe, mais je prends ici tous les risques, y compris celui de me faire voler dans les plumes.
Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain. Stéphanie Loire, votre indispensable du jour, ce sera quoi ?
Je vais vous parler d'une valeur sûre du rock british qui s'appelle Miles Kane.
D'accord. Et Camille Jounot, une valeur sûre de la peinture ?
Exactement. On retrouve un inclassable virtuose de l'art moderne, le peintre Paul Klee.
Ce sera aux alentours de 10h30, ces indispensables. Dans un instant, Isabelle Huppert en personne dans ce studio. On parle du film Les Promesses, mais d'abord musique. Clara Luciani sur Europe 1.
Les repas sont des îlots faits pour deux, des châteaux pour lever toujours levé. Personne ne peut
passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours. Quitter devant dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu, doucement, quelque part. Quitter devant dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu, doucement, quelque part. À la folie, 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 à la folie.
Amour toujours, c'était Clara Luciani sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Isabelle Huppert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct, comédienne totalement à part, non seulement dans le cinéma, mais dans l'histoire du cinéma. 40 ans de carrière ou plus de 120 films, 2 prix d'interprétation à Cannes, 2 fois le trophée à Venise et un César. Mais le plus important, vous ne faites surtout pas ce métier pour les prix, mais par passion. Tout le monde le dit. On peut vous voir aussi bien dans des films d'auteur que dans des comédies comme La Daronne, qui a récemment cartonné. Et votre actualité, c'est ce film, Les Promesses. Il est signé Thomas Kruithof avec Reda Kateb. Ça sort mercredi avec comme co-scénariste, c'est pour ça que je le cite, Jean-Baptiste Delafont, le créateur de la série Baron Noir. Ça donne un peu la tonalité du film. Les Promesses, on est dans la politique, mais pas seulement. Qui est Clémence, votre personnage, et pourquoi elle vous a intéressé, cette Clémence ?
Clémence est une mairesse d'une commune du nord de Paris qui se bat pour une meilleure vie pour ses concitoyens, qui se bat pour l'amélioration de cités qui sont en grande vétusté, grande précarité. Et le film, c'est l'histoire de ce combat aidé par son directeur de cabinet qui est joué par Reda Kateb. Et comment, au fil de ce combat, on suit leurs parcours respectifs, leurs ambitions, leurs déceptions, nos propres déceptions vis-à-vis de leur vulnérabilité, qui peut notamment, pour ce qui concerne mon personnage, la conduire à une mauvaise image d'elle-même, en tous les cas.
Et en ce moment, Isabelle Huppert se dit « qu'est-ce que je peux dire et ne pas dire ?» Parce qu'on ne peut pas tout raconter, il y a des rebondissements.
C'est un thriller, c'est un vrai film de cinéma, c'est pas un documentaire, c'est pas un film, c'est plutôt qu'un film politique, c'est un film sur la politique, ouais. Qui prend comme cadre une situation politique, mais c'est avant tout un film.
Et contrairement à Baron Noir, puisque je citais Jean-Baptiste Delafont, c'est pas un film sur les coulisses de la politique et l'accession au pouvoir, mais c'est sur l'action au quotidien envers les administrés. On va entendre la bande-annonce.
Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de maire.
Vous avez peur de quoi exactement ? D'assumer un peu d'ambition ? Vous avez exactement le profil dont ce gouvernement a besoin.
Une chose.
Quelqu'un va vous contacter pour caler un rendez-vous.
Avec ?
Le Premier ministre.
On me propose d'être ministre.
T'hésites ?
Je vais me faire broyer.
Ça m'aiderait de comprendre un peu comment ça fonctionne dans ta tête.
Finalement, je te croyais différente des autres, mais t'es prête à vendre père et mère pour quelques miettes de pouvoir.
Ça fait 12 ans que je la vois se bagarrer pour les Bernardins comme si l'avenir de l'humanité en dépendait. Je te demande juste de lui faire confiance un peu.
Quel plan, ça fait 20 ans que j'en vois passer. L'État trouvera toujours une bonne raison pour ne rien faire. Je les prends sur qui, les millions ?
Mais vous faites comme vous voulez, vous vous démerdez, je m'en fous de votre cuisine.
On cherche des personnalités, pas des pirates de la politique.
Je ne suis pas là pour vous dire qu'on doit se battre, je suis là pour vous dire qu'on va gagner.
Tu vas laisser passer 63 millions sans rien faire ?
T'arrêtes maintenant !
J'essaie juste de te comprendre.
De ce papier dépend l'avenir d'une cité. L'avenir de plus de 3000 personnes en détresse.
On abandonne, on en reste là ? Moi, je suis pas d'accord.
Donc, je suis honnête, mais je mens.
Et une promesse non tenue, c'est pas un mensonge.
Il y en a des promesses dans cette bande-annonce. C'est pas la moindre des qualités du film. On ignore à quelle partie Clémence appartient. Pour quelle raison ?
Je crois que c'était l'ambition, la volonté de Thomas Kruithof, le réalisateur du film. Ce n'est pas un film idéologique.
Pas du tout.
C'est, c'est un film qui montre la politique à travers un contexte très concret. Donc c'est des gens qui se battent pour un meilleur vivre, qui montre aussi les banlieues sous un angle peut-être un peu différent de la délinquance ou genre de prisme à travers lesquels on montre la banlieue, mais plutôt sous l'angle de la volonté d'un meilleur vivre pour leurs habitants.
Thomas Kruithof, le réalisateur, dit qu'il a rencontré beaucoup de maires avec des couleurs politiques différentes, qu'il a été très frappé, qu'ils menaient tous le même combat pour sauver des cités dégradées. Vous-même, comment vous avez travaillé pour ce rôle? Vous êtes allé rencontrer des femmes, des hommes, des maires? Vous avez regardé la télévision, vous avez lu de la documentation, comment vous avez fait?
J'en ai pas rencontré particulièrement pour ce film. J'en rencontre naturellement en lisant les journaux, en étant proche de l'actualité. Donc quand on aborde un film comme ça, on a déjà certaines images en tête. J'ai regardé quelques discours parfois d'élus, ça ne m'a pas non plus directement inspiré. Encore une fois, c'est du cinéma. Donc le cinéma, c'est de l'imaginaire. Il n'y a pas de stéréotypes non plus dans ce genre de personnages. Il y a évidemment le pouvoir de conviction, l'éloquence, des traits communs qu'on peut retrouver à ce genre de personnages.
Où est-ce que vous avez tourné ?
On a tourné.
C'était des décors ou c'était des vraies cités avec
Non, dans des vraies cités. Oui,
avec
oui,
la peinture qui se désagrège, avec les fuites d'eau. Avec
Ah oui, on a pu voir le scandale que représentent les conditions de vie des gens là-bas, bien sûr. On a tourné dans ces endroits-là.
Il y a un vrai background réel. C'est un film sur la politique, mais on parle plus d'argent que d'idées. Ça parle du mal logement, des copropriétés délabrées, les marchands de sommeil qui s'engraissent sur le dos des clandestins, les charges à payer, les colocataires n'arrivent pas à les payer, d'autant qu'elles sont absurdes. 153,60 €. Il y a les 60 centimes pour un parking inondé, 70 € pour une cave squattée, encore plus absurde, pour un ascenseur en panne depuis 10 ans, 50 €, 23 centimes de charge. On se dit, mais que viennent faire ces 23 centimes-là? Et tout ceci, c'est le quotidien de gens.
Oui, c'est la force du film, c'est de montrer l'action politique, donc ce qu'elle peut avoir de plus concret, et c'est au niveau des élus locaux que la politique se fabrique de cette manière-là. Donc c'est l'originalité de ce film.
Et l'élu local, il est comme le point nodal dans un sablier, c'est qu'il est pris entre le bas et le haut, parce qu'en même temps, il a des réunions avec les ors de Matignon, et quand on voit le contraste, même géographique, c'est saisissant dans le film.
Ben oui, parce que les élus locaux, ils se battent pour une subvention qui n'est quand même pas mince, hein, c'est 63 millions d'euros. Pas 60, 63,
63.
Comme vous dites.
Ah, mais là, ça compte, c'est pas les centimes. Oui,
voilà, c'est pas des centimes. Et évidemment, il faut frapper très haut pour l'obtention de cette subvention. Et c'est là qu'on se heurte à des rouages sur lesquels on n'a pas forcément prise. Et puis, chemin faisant, on raconte aussi un parcours personnel pour chacun des personnages qui nous font mesurer que la politique, c'est un mélange, oui, à la fois d'idéalisme et parfois aussi d'ambition personnelle, pas forcément d'ailleurs répréhensible. Mais le film, de ce point de vue-là, n'est ni un réquisitoire ni un plaidoyer. C'est de montrer les choses telles qu'elles se passent, probablement, avec aussi quand même des personnages assez courageux qui ont un but, qui ont une conviction, qui ont vraiment une envie que les choses changent, s'améliorent, en tous les cas.
Un but, une conviction, c'est un petit peu vous. On va passer d'un personnage de mère à votre personnage à vous, Isabelle Huppert. Lisa Marie Marquez arrive. C'est un drôle de portrait qu'elle va nous faire aujourd'hui. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la comédienne Isabelle Huppert. On parle du film Les Promesses et on va revenir sur votre parcours avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Un portrait un peu hors norme pour une invitée hors norme.
Bonjour Philippe, bonjour Isabelle Huppert.
Bonjour.
Vous êtes aussi à l'aise devant la caméra que sur les planches. Vous incarnez tous les types de femmes. Vous avez travaillé avec les plus grands réalisateurs et vous êtes sans aucun doute la plus grande actrice française. Mais comment en êtes-vous arrivée là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Isabelle Huppert, votre découverte du cinéma débute avec les films de Charlie Chaplin, de Laurel et Hardy et aussi My Fair Lady avec Audrey Hepburn. Mais le film qui va beaucoup compter, c'est Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov et plus particulièrement la dernière scène. L'actrice interprétée par Tatiana Samoïlova en tailleur blanc, un bouquet de fleurs à la main, s'avance sur le quai d'une gare en espérant retrouver son fiancé parmi les soldats qui reviennent de la guerre. Au fur et à mesure qu'elle avance dans la foule, elle comprend qu'il ne reviendra pas. Elle est alors submergée par les larmes. Mais le film se conclut sur une note d'espoir, par un discours sur le retour de la paix et la reconstruction. Et un homme qu'elle croise dans la foule lui dit
« Well, don't just stand. Give the flowers to whoever they're for. »
Donne ses fleurs à la personne à qui elles sont destinées. L'actrice se réconforte dans la solidarité collective en distribuant ses fleurs aux gens autour d'elle. Et je crois, Isabelle Huppert, que cette scène vous a beaucoup marquée.
Oui, beaucoup, oui, oui, je l'ai vu, j'étais assez petite quand j'ai vu ce film pour la première fois. Et c'est un film extraordinaire, en noir et blanc. Et c'est vrai, cette dernière scène qui montre Tatiana Samolovna qui s'avance sur le quai, éplorée, et qui comprend au fur et à mesure qu'elle marche qu'elle ne retrouvera jamais l'amour de sa vie. Et puis finalement, elle croise ce vieux monsieur qui lui dit il faut vivre. Et alors, elle sourit en même temps. Et je crois que c'est une image d'actrice qui m'a frappée quand j'étais petite, de voir qu'on pouvait à la fois pleurer et sourire en même temps. Et c'est peut-être la force du cinéma d'exprimer toujours un sentiment et son contraire au même moment.
Isabelle Huppert, c'est au lycée de Saint-Cloud que vous débutez le théâtre à l'âge de 14 ans avec des spectacles que vous montez avec d'autres élèves. Il y a par exemple L'Invitation d'Anouilh, puis Les Précieuses Ridicules où vous jouez le rôle du valet, Mascari, un rôle de garçon.
Ah oui, déjà, voilà, ça annonçait Orlando que j'ai joué plus tard avec Robert Wilson. Et je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée à jouer Mascari, mais le fait est que c'est Mascari que je jouais. Une pièce géniale et d'actualité avec l'année Molière.
C'était un choix ou on vous a dit « toi tu vas faire le garçon » ?
Oh, c'était sans doute un choix. Non, ça me plaisait bien de faire le garçon.
Oui. Vous étudiez ensuite au conservatoire de Versailles avec Émile Dars comme professeur. Et au concours de sortie, vous jouez un caprice d'Alfred de Musset et une scène de Bouboroche de Courteline. Vous obtenez le premier prix. Vous présentez ensuite le concours du conservatoire de Paris. La première fois, vous n'êtes pas reçu, mais au deuxième essai, vous réussissez en jouant, là encore à Nouilh, comme lorsque tout a commencé au lycée.
Et je joue, L'Invitation au château, je ne sais plus exactement. Oui, c'est vrai. C'était des, à Nouilh, oui, c'était des scènes très porteuses avec des personnages très bien, avec des dialogues merveilleux. Donc c'était un bon matériel pour se faire remarquer et apprécier.
Après l'apprentissage, place à la pratique du théâtre d'abord. Vous jouez dans Champion de la faim de Kafka, le rôle d'une panthère. Puis vous vous produisiez au Café Théâtre Le Sélénite, rue Dauphine, à Paris, dans une pièce écrite par votre sœur Elisabeth, baptisée La véritable histoire de Jack l'Éventreur. Une version très audacieuse, puisque Jack l'Éventreur est une femme.
Oui, c'était effectivement, et assez prémonitoire de transformer un personnage aussi sulfureux que en femme. C'était donc l'idée de ma sœur Elisabeth. C'était mis en scène par ma sœur Caroline, et c'était une aventure très joyeuse dans cet endroit qui s'appelait le Sélénite, rue Dauphine, qui n'existe plus maintenant, mais ça c'est un très très grand succès. C'était tout petit, on jouait pratiquement sur les genoux des spectateurs. C'était vraiment une aventure incroyable.
Et il y avait des effets spéciaux. Vous ouvriez le ventre de gens ou pas du tout ?
Eh bien, non, le théâtre, ça consiste à faire surgir des images dans la tête des gens pour les effrayer ou pour les émouvoir. Mais je pense que voilà, on était suffisamment convaincantes pour leur faire croire qu'il y avait du danger.
Au cinéma, Isabelle Huppert, vous apparaissez pour la première fois dans Faustine et le bel été. C'est un rôle de figuration. Vous donnez alors la réplique à Muriel Catala dans cette scène.
Dans 2 jours, les vacances.
Tu retournes à Saint-Tropez ?
Non, pas cet été. Mes parents y vont, mais moi je vais à la campagne chez ma grand-mère.
À la campagne ? T'as pas peur de t'ennuyer ?
Tu vois, cet été, pour changer, j'ai envie de m'ennuyer un peu.
Et Isabelle Huppert, pour cette première apparition au cinéma, votre nom est mal orthographié au générique. Il est écrit Isabelle Huppert avec un seul P.
Ah, ben alors ça...
Vous saviez pas ?
Non, je m'en souvenais pas. C'est incroyable. Non, non. Mais par contre, ce que je disais toujours, c'est qu'il fallait être bien à l'heure pour me voir, parce que ma scène était avant le générique. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je ne me souvenais pas, parce que peut-être que je partais tout de suite après ma scène, je ne sais pas. Mais voilà.
Vous incarnez ensuite la sœur de Romy Schneider dans César et Rosalie de Claude Sauté, puis le rôle de Jacqueline, une jeune adolescente en révolte contre l'autorité paternelle dans Les Valseuses, aux côtés de Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. Un film qui marque une époque, plus de 6 millions d'entrées en salle. On écoute un extrait.
Ouf, con, petit mec, sous merde, ingénieur de mon cul.
Tu sais ce qu'elle te dit, ta fille unique, ta fille chérie? Mais moi j'y vais pas au bord de la mer, y'en a marre, c'est fini. Le volley-ball, les crevettes, le tennis, c'est tout ça, j'ai la quille, j'en ai ras-le-bol, j'y vais pas.
Isabelle Huppert, vous obtenez enfin votre premier rôle principal dans La Dentelière de Claude Goretta, un rôle remarqué d'apprentie coiffeuse à la tristesse insondable qui vous vaut une pluie de nominations et de récompenses. Le début de votre grande aventure avec le cinéma, sans jamais négliger le théâtre. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Vous regardez quand l'un des films dans lesquels vous avez joué repasse à la télé ?
Ça m'arrive. Surtout quand c'est très longtemps après, ça m'intéresse.
Je pensais aux valseuses justement, parce qu'on entendait l'extrait.
Oui. C'était une scène qui avait beaucoup frappé les esprits. Moi j'avais une participation modeste par rapport aux trois rôles principaux de Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. Et néanmoins, souvent on parlait du film en commentant cette scène, parce que c'était une scène particulièrement transgressive, cette révolte très forte de cette jeune femme, toute jeune fille, contre ses parents, contre l'ordre établi. Donc c'est une scène qui devenait presque l'idéologie du film.
Emblématique.
Oui.
Isabelle Huppert, vous restez avec nous. Merci Lisa Marie Marquez. Vous revenez demain.
Je reviens
Culture
demain.
Média continue.
Merci.
On va parler de musique, on va parler de peinture, on va parler de théâtre. Il y aura du Tchekhov, il y aura du Klee et il y aura du cinéma. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie d'Isabelle Huppert à l'affiche du film Les Promesses. Ça sort mercredi, c'est avec Reda Kateb. Le film pose la question de la politique. J'ai une question après avoir entendu le portrait de Lisa Marie Marquez. Qu'est-ce qui vous fait avoir toujours envie de tourner 2, 3, 4 films par an ?
D'abord, je n'en tourne pas tout le temps 2, 3, 4 par an. Mais même, j'en tournerai qu'un, même la moitié d'un.
Ouais.
J'aurais toujours envie d'en tourner. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est la rencontre avec un metteur en scène avant tout, quand même. Avec un personnage, avec un sujet, avec des dialogues. Souvent, quand on lit un scénario, c'est les dialogues qui vous conduisent en premier vers les personnages. Parce que c'est essentiel, les dialogues, la manière dont ils s'expriment. C'est beaucoup de choses. Dans le cas des Promesses, c'est la perspective de jouer avec Reda Kateb. C'est le sujet du film. Et le premier film de Thomas Kritoff, qui était très prometteur, c'est le cas de le dire, Une promesse tenue, qui était la mécanique de l'ombre avec François Cluzet, qui est un très 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 bon film.
Qui était davantage sur les coulisses. Elle l'a dit, Lisa Marie, vous avez travaillé avec les plus grands, je vais en citer beaucoup, Chabrol évidemment, Godard, Téchiné, Piala, Tavernier, Haneke, Cimino, Blier, j'en oublie. Ça frappe toujours les biographes. Pendant toute votre carrière, vous n'avez quasiment tourné aucun navet. Comment vous expliquez ça ? Normalement, il y a des hauts, des bas.
Oui, il y a des films qui plaisent plus ou moins.
Voilà. Mais vous, il n'y a pas de bas. Quasiment pas.
Mais il y a des navets intéressants. Hein. Claude Chabrol, il avait beaucoup à dire sur les navets.
Ouais.
Oui, il n'hésitait pas. Oui. Oui, pourquoi pas un navet. Je ne sais pas. j'ai certainement la réponse, mais ce n'est peut-être pas à moi de la donner. J'ai eu la chance, en tous les cas, de me trouver, toujours dans des aventures.
Non, mais je ne suis pas là. On peut se tromper. Je connais beaucoup de comédiens, de comédiennes, quand on est dans un film qui est absolument formidable sur le papier, et puis la réussite, au point que parfois ils n'allaient même pas faire la promo du film, tant ils étaient déçus. Ça vous est pas arrivé, ce genre de déception ?
Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, mais pire que ça, ça doit être plus difficile encore de le constater pendant qu'on tourne. Qu'on le constate après, quand le film est terminé, il y a quelque chose qui vous échappe et ça n'entache pas le plaisir qu'on a pu avoir à le faire. Mais constater ce que vous décrivez pendant qu'on tourne et qu'on est en train de se tromper, ça doit être très douloureux et ça m'est vraiment jamais, jamais arrivé.
Quelle carrière, quel personnage Isabelle Huppert. Stéphanie Loire, rebonjour.
Bonjour. Bonjour Isabelle.
On va parler de musique. Et aujourd'hui, il m'a dit, j'ai un album pour les fans, les nouveaux et les anciens de...
Miles Kane.
Qui est-il ?
Miles Kane, c'est une valeur sûre du rock british. il a un nom qui claque, hein, je trouve quand même. Il a un nom d'artiste, quoi, ouais. Qu'il arrive. C'est un pimpant musicien, qui est guitariste, chanteur, auteur originaire de Liverpool, là-bas on fabrique des bons rockers. Révélé par son groupe de jeunesse, le trio The Rascals. Et puis il est de ces artistes, lui, qui ont connu le succès dans le sillon de plus populaire qu'eux, comme nous tous autour de vous, Philippe Vandel.
Et moi autour du sillon de plus connu que moi.
C'est Alex Turner, leader des excellents Arctic Monkeys et leur association au sein du super groupe, les Last Shadow Puppets, qui l'ont propulsé vers la lumière. Rappelez-vous, les Last Shadow Puppets, en 2008, ça donnait ceci. Ça vous évoque quelque chose ?
Pas du tout. Moi, ça me rappelle les années 60. Et en revanche, ça évoque beaucoup à Camille Jouneau. Ça vous parle, Isabelle Huppert, ou pas du tout ?
Pas du tout, mais par contre, ça donne envie de le réécouter.
C'est voilà, très bien. C'était vraiment furieusement rock, les La Shadow Puppets, et diablement bon, hein, ce duo, ouais, avec son ami Alex Turner d'Arctic Monkeys, lui a valu les sommets les plus dingues de sa carrière. Mais les albums solo, celui dont je vais vous parler, c'est un album solo de Myles Kane, méritent vraiment notre attention. Et ce quatrième projet solitaire s'appelle Change the Show. Il est sous influence 60s et il a très fière allure. Myles Kane, il trace depuis ses débuts sa route semée d'influences des années 60-70, on l'entend clairement. Hein. Mm. Ce nouvel album qui vient de paraître fait aussi une place au glam, au rock et à la soul. Soul, excusez-moi, je l'ai écorché. Comme ce nom, Don't Let It Get Go Down, teinté de saxo en toile de fond. C'est bien Myles Kane, hein.
J'aime bien ça, parce que c'est moi 60s.
Je sais que ça plaît Isabelle Huppert,
ça donne envie de danser le rock.
Ah, complètement. Alors parmi les singles, il y a Caroline qui donne envie d'enfiler une robe aux couleurs acidulées très pop, un pull col roulé à rayures qui vous irait à merveille, Philippe Vandel, pour aller danser un petit twist. Dans cet album, il y a aussi le titre Nothing's Ever Gonna Be. Oh, l'anglais ce matin, ça va pas du tout. Hein.
C'est vrai, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de groupes anglais dans la musique.
Non, le.
Isabelle.
Ça m'évoque le très beau film de Robert Guédidian, Twist à Bamako. Voilà.
Ah, mais oui.
J'avais envie de
Le
dire.
Bah, merci de l'avoir dit.
Voilà. Très bien.
Et le titre en anglais ?
Et le titre en anglais, vous avez vraiment envie que je le fasse.
Nothing's Ever Gonna Be Good Enough.
Oh là là,
rien
qu'il
ne sera
bon.
Jamais aussi bon.
Il enseigne l'anglais à Stanford, cet homme-là. Enregistré avec la chanteuse anglaise Corinne Bailey-Rae, voix sublime, un morceau qui est bourré d'énergie sur fond de piano vintage enivrant. Je suis sûre que quand vous êtes aux platines et que vous organisez des soirées, Philippe, c'est le genre de morceau que vous mettez pour lancer la soirée. C'est élégant, hein, c'est ça, ouais. Je trouve que c'est le mot qui lui va.
Comment elle s'appelle ?
La chanteuse, c'est Corinne Bailey-Rae. C'est
Isabelle,
avec Myles Kane.
Ne lui demandez pas le titre.
Oh, ça suffit, dites donc. Alors, vous l'entendez, la musique de Myles Kane, c'est de la joie communicative, contrairement à pas mal d'autres artistes rock qui surfent sur la tendance cheveux gras, air blasé vers l'existence et posture, je ris quand je me brûle. Mmh. Myles Kane, lui, il est plutôt du genre à sourire à la vie, à laisser s'exprimer le plaisir qu'il prend à exercer son métier, et ça fait du bien.
Et que vois-je sur ma feuille ? Il va faire des concerts.
Oui, en France. Quelques dates en France au printemps. Il sera le 16 avril à Reims, le 22 avril à Lille, le 26 avril à Strasbourg et le 28 à l'Olympia à Paris.
Merci beaucoup. Dernier commentaire. Vous allez voir des concerts parfois ou vous n'avez pas le temps ?
Ça m'arrive, pas très souvent et pas aussi souvent que j'aimerais, mais ça m'arrive.
Voilà, vous pourrez aller voir Myles Kane. Change the Show, ça vient de sortir le nouvel album. Et puis Stéphanie, on vous entend ce soir, musique de 20h à 22h. Ce soir, vos invités, Axel Bauer et Rookin, aucun rapport avec la couleur de cheveux d'Isabelle Huppert. C'est tombé comme ça, on va parler peinture. Il n'y a pas que le Caravage dans la vie, il y a aussi Paul Klee, je pourrais le dire différemment. Il n'y a pas que Paul Klee, il y a aussi le Caravage. Pourquoi je dis ça ? Vous allez comprendre, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Isabelle Huppert, je rappelle, elle est à l'affiche du film Les Promesses, signé Thomas Kuitoff avec Reda Kateb. Ça sort mercredi. Il y a tellement de projets pour vous et qui sont plus que des projets, qui sont des films également tournés. On va vous voir également au cinéma cette année, en 2022, dans L'ombre du Caravage, signé Michael Placido. C'est un film sur la peinture, sur le peintre ?
C'est un film sur le personnage du Caravage, oui, qui était un personnage un peu punk avant l'heure, hors la loi, malmené par les pouvoirs politiques et religieux de son époque. C'est vraiment un personnage extraordinaire, le Caravage.
Et vous-même, votre rôle ?
Une femme noble qu'il a protégée toute sa vie, qu'il a connue quand il était enfant, qui a tout de suite reconnu son génie très tôt et qui l'a protégé, qui était aussi amoureuse de lui. Voilà.
La peinture, vous aimez ?
Beaucoup. Beaucoup, bien sûr. Longtemps, je pense que j'ai préféré peut-être la musique à la peinture et j'aime de plus en plus la peinture. Oui, très souvent, jusqu'à hier, voir la magnifique exposition Ilia Repine, qui malheureusement s'est terminée hier, qui était vraiment géniale, qui est un peintre méconnu pour le public français, mais qui maintenant l'est grâce à cette exposition. C'était formidable.
Ilia Repine, c'est comment je l'ai découvert, je vous raconte ma vie, je ne devrais pas, grâce à Camille Jounot, bonjour.
Bonjour Philippe.
C'est vous qui en avez parlé ici.
Absolument.
Dans cette chronique. Et aujourd'hui, on parle de peinture, un autre très grand artiste.
Exactement, aujourd'hui on va se parler de Paul Klee, le peintre d'origine allemande et mis à l'honneur en ce moment par le LAM à Villeneuve-d'Ascq. Alors d'abord, qui est Paul Klee ? Vous l'avez dit, c'est un très grand nom de l'art moderne, un artiste prolifique qui va laisser derrière lui plusieurs milliers d'œuvres. Alors forcément, au fil de sa carrière, son style va évoluer, mais il y a quand même toujours dans ses peintures un travail de la ligne, c'est un vrai marqueur de sa production. Donc chez lui, c'est le dessin qui prime. On a des œuvres très planes, de petit format, avec un joli travail des couleurs, sourde à certaines périodes et très vive à d'autres. Le peintre flirte avec l'abstraction, mais la base de son travail reste figurative. Alors après, c'est pas tellement l'aspect formel dont je veux vous parler aujourd'hui, car ce qui est intéressant avec Paul Klee, c'est que ses œuvres, elles ont quelque chose qui nous est étrangement familier et qui résonne avec notre intimité.
J'adore votre expression, les couleurs sourdes. Comment ça s'explique que ce soit aussi familier, Paul Klee ?
Alors en fait, Paul Klee, c'est un artiste qui se détourne de l'art académique. Il va chercher à remonter aux origines de la création et l'exposition décompose pour nous les principales sources d'inspiration qui vont l'accompagner dans ce processus. Il s'intéresse notamment à l'art asilaire. Alors, ce qu'on appelle art asilaire, c'est l'art imaginé par des personnes internées en hôpitaux psychiatriques. C'est encore un grand pan de la création artistique contemporaine. Puis, Paul Klee a aussi beaucoup été influencé par la préhistoire et par les dessins d'enfants, donc des univers qui n'ont pas été corrompus par une conception classique de l'art. On écoute Jeanne-Bathilde Lacour, co-commissaire de l'exposition et conservatrice au LAM.
Ce qui est important chez Klee, c'est qu'il y a toujours une espèce de croisement et de sédimentation de plein de sources d'inspiration différentes. Et c'est ça qui fait que c'est des œuvres à la fois très riches, très complexes, qui se regardent vraiment dans le détail, dans le temps, et qui sont fascinantes aussi, parce qu'on a l'impression d'en avoir jamais complètement fait le tour, tout en ayant aussi une impression parfois d'immédiateté. Enfin, c'est des œuvres qui séduisent, qui saisissent immédiatement, et qui, en même temps, quand on se penche dessus, ne cessent de surprendre, en fait.
Alors, il y a une quatrième source d'inspiration qui est plus complexe. C'est ce que l'exposition appelle les arts du monde et qui regroupe les arts traditionnels océaniens et africains, dont les artistes européens vont beaucoup s'inspirer au début du XXe siècle.
Alors, Paul Klee, il est mort en 1940. Est-ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle ? Terme très à la mode en ce XXIe siècle.
Oui, absolument, Philippe, et je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, l'exposition tient à marquer une distance avec la démarche de Paul Klee et des artistes de son temps. En fait, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on est dans un contexte de domination coloniale. Ces artistes vont s'approprier les cultures d'autres pays pour servir leur propre création. Et ça n'est pas non plus une problématique qui laisse complètement indifférent Paul Klee, mais comme il est un peu enfermé dans son époque, il n'arrivera jamais vraiment à la formuler et à y répondre. Cela dit, cette dénonciation, elle sera quand même assurée par des critiques d'art qui, déjà du temps de l'artiste, donc il y a 100 ans, vont commencer à soulever les questions d'appropriation culturelle qui se posent ici et qui se posent effectivement aujourd'hui.
Donc on est dans les années 20, une expo bien documenté.
Oui, c'est le gros point fort. L'expo, elle est à la fois artistique et historique. On trouve au centre de chaque salle un îlot documentaire qui permet de contextualiser les œuvres de l'artiste avec des archives, des éléments biographiques et des objets de sa collection personnelle. Chacun des îlots constitue une sorte de brief qui permet d'admirer les peintures de Paul Klee en toute liberté sans avoir besoin qu'elles nous soient expliquées scolairement une à une. Donc on peut vraiment s'engager dans un dialogue personnel avec le travail de l'artiste, on a la place pour être ému, et c'est là que son art fait résonner en nous une sorte de nostalgie instinctive. On est confronté à des œuvres à la beauté franche et immédiate, elles ont quelque chose d'essentiel qui invite à se reconnecter à soi-même. Cette expo-là, c'était un peu comme une détox pour l'esprit, je recommande chaudement.
Merci beaucoup Camille. Donc Paul Klee, Entremonde, c'est au LAM de Villeneuve-d'Ascq, c'est jusqu'au 27 février. Est-ce que ça vous a tenté Isabelle Huppert ?
Beaucoup, il faut aller jusque là, mais ça énormément. Puis vous parliez d'inspiration avec la psychiatrie, enfin
bon, l'art asilaire.
Oui, l'art asilaire, voilà, ça m'a rappelé l'art brut.
Oui, absolument.
Parce que j'ai joué un film qui s'appelait Aloïse de Liliane de Kermadec, qui était une artiste majeure du mouvement de l'art brut.
Voilà. Oui, il y a une très grande collection d'art brut justement à Villeneuve-d'Ascq.
À Villeneuve, oui. Ouais, c'était une collection fondée par Dubuffet. Oui.
Et c'est je terminerai sur l'expression que j'aime beaucoup. On a la place pour être ému. Dans un instant, dernière partie de Culture Média. Isabelle Huppert avec nous. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Isabelle Huppert, à l'affiche du film Les Promesses, est signé Thomas Kruithof avec Reda Kateb et ça sort mercredi. Alors je l'ai dit, les promesses s'entendent dans deux sens, les promesses électorales, les promesses de toi à moi. Film qui ne parle pas tout à fait de conquête du pouvoir, mais de son exercice pur, un grand projet local qui s'affronte au pouvoir national. Il y a un double enjeu pour votre personnage. Il faut convaincre l'État de réhabiliter une cité. 63 millions d'euros, ça coûte. Et convaincre dans le même temps la population impatiente et en perte de confiance que vous allez y arriver. Et là, on est en plein dans le titre du film avec cet extrait, Les Promesses.
T'es honnête? Tu promets pas de gagner, tu promets juste de te battre.
Ah, les Chirol, ils ont déjà tenté le coup il y a plus de 20 ans. Ça a fini au Conseil d'État. Et au final, les copros se sont mangés une méchante tôle.
On n'est pas obligé de leur faire un cours d'histoire du droit.
Donc, je suis honnête, mais je mens.
Mais pas du tout. On lance réellement la procédure.
Qu'on s'est perdu d'avance.
Une promesse non tenue, c'est pas un mensonge.
Ah bah si on sait dès le départ qu'elle pourra pas être tenue, si.
Mais est-ce qu'on sait dès le départ qu'elle pourra pas être tenue?
Bah bien sûr que oui, qu'on le sait, parce que sinon on aurait lancé la procédure depuis longtemps.
Non, l'étude ne dit pas que c'est ingagnable.
Bah, en gros, si.
En gros. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une toute petite chance.
Qui serait déraisonnable de courir.
Mais qui existe.
Pas pour moi.
Pas pour toi, mais en soi, elle existe. Bref. C'est pas une fausse promesse, et encore moins un vrai mensonge.
Donc, je suis honnête, mais je mens, dit votre personnage, c'est un peu l'essence du métier de comédienne. Il faut mentir honnêtement.
Oui, c'est Cocteau qui disait « Je suis un mensonge qui dit la vérité ».
Ouais. Ou le mentir vrai d'Aragon, c'est ça.
Voilà, voilà.
Il y a un peu de ça.
Il y a un peu de ça, il y a beaucoup de ça, mais un peu beaucoup des deux.
Voilà.
La vérité et le mensonge. Le mensonge, c'est pas un mensonge, c'est une fiction, donc c'est pas une
réalité.
On est
bien d'accord. Mais là où c'est extraordinaire dans ce film, c'est qu'on vous voit justement progresser à l'intérieur même du film, où la part de mensonge, on ne sait jamais quel est le pourcentage face aux gens avec qui vous êtes, face à votre équipe. Enfin, on ne va pas tout raconter non plus. Et Reda Kateb, qui est absolument formidable dans le film et qui joue une sorte de contrepoint très étonnant.
Oui, oui, Reda est vraiment
et très
formidable
fort
dans le film. Et, mais le mensonge, il est parfois pour le meilleur et parfois pour le moins bon, pas pour le pire, disons, parce que c'est quand même un film qui est assez optimiste, au fond, dans sa description d'une certaine classe politique, et puis dans la manière dont aussi les cheminements individuels sont décrits, ça laisse sur une note plutôt optimiste.
Je voudrais qu'on dise un mot du comédien Gaspard Ulliel, disparu la semaine dernière dans l'accident de ski. Gaspard Ulliel, avec qui vous aviez tourné deux films.
Oui, j'ai tourné deux films avec Gaspard, Un barrage, tiré du roman de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique avec Ritipan, et Eva de Benoît Jacquot. Et oui, c'est irréel. Gaspard, c'était vraiment un être assez irréprochable. Il était merveilleux, il était doux, il était profond, il était mystérieux aussi. Il était léger, il était grave. Voilà, c'est difficile de...
On peut s'arrêter là.
T'en dire plus.
On peut s'arrêter là sur un hommage.
Oui.
Les grandes douleurs sont muettes. Je parlais de théâtre, vous serez dans la Cerisaie. C'était un rêve depuis longtemps ou pas du tout?
J'y suis déjà
parce que
depuis
c'est
longtemps.
Pas rien, la Cerisaie.
Oui, non, j'y suis depuis longtemps. C'est le spectacle que nous reprenons au Théâtre de l'Odéon qu'on a créé au Festival d'Avignon.
Vous avez raison.
Au mois de juillet.
Mais comme j'ai lu que ça arrivait à l'Odéon, pardon.
Ben c'est arrivé, on a commencé voilà. Déjà début janvier. Et c'est surtout mis en scène aussi par Thiago Rodriguez, grand metteur en scène portugais, qui vient de prendre la direction du Festival d'Avignon. Et c'est un plaisir extraordinaire de jouer Tchekhov, d'être entouré par tous les acteurs avec lesquels je suis entouré.
Dans une interview, vous dites « je l'ai joué parce que c'est le plus grand rôle du théâtre ».
Oh, c'est pas le plus grand, je sais pas, il y a des rôles extraordinaires.
C'est ce que vous aviez dit, donc ça m'a étonné.
Oui,
je me suis dit, tiens, je vais le relire.
Oui, Tchekhov, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue Tchekhov, il y a quelque chose de à la fois insondable et en même temps voilà, c'est un auteur qui vous emporte, qui vous fait réfléchir, qui pose des questions auxquelles on n'a pas de réponse, c'est un génie, voilà, tout simplement.
On restera sur ce génie. Isabelle Huppert, merci, autre génie, d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Ce fut un immense plaisir. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Évidemment, nous serons avec le président d'Arte, mais également spécialiste des médias et des questions numériques. Tempête dans un bocal, c'est la suite de son livre qui était devenu un best-seller. La nouvelle civilisation du poisson rouge, c'est rare qu'un essai devienne un best-seller. C'est signé Patino, il sera avec nous demain. Et puis la comédienne Sandrine Kiberlin pour son premier film en tant que réalisatrice, Une jeune fille qui va bien, très joli titre. Juste après le flash, elle vient d'entrer dans ce studio, Julia Vignali, Mélanie Gomez, l'émission Bien fait pour vous, le programme du jour qui commence.
Eh bien aujourd'hui, on va se poser cette question, et si on se mettait davantage au vert dans tout notre quotidien, pas uniquement dans notre assiette, mais aussi du côté des cosmétiques, des produits ménagers ou même de la déco, on va tout vous expliquer.
Et puis, je ne sais pas si vous pratiquez le shiatsu, Philippe. Ah bah c'est super le shiatsu, c'est un massage japonais, ça peut régler plein de problèmes, excès de poids, migraines, lumbago, fièvre, allergies, on en parlera.
Isabelle Huppert, vous pratiquez le shiatsu?
Pas assez, pas aussi souvent que j'aimerais, mais c'est génial le
shiatsu. C'est extraordinaire. Voilà.
C'est extraordinaire.
Et est-ce que vous êtes mis au vert dans votre maison?
Au vert, c'est-à-dire
Végétal, écolo.
Elle
préfère le shiatsu.
Isabelle Huppert, le shiatsu. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut.